tout le temps des gagnants. Que le René a eu le gros lot, un gros chiffre avec 4-0.
Hey, on raconte qu'un jour tout le monde gagne, qu'avec un peu de chance et de hargne, à la télé, on peut finir.
Je me vois tourner la roue de l'avenir.
Dimanche matin, si je me sens bien au PMU, chez le vieux William. On sent nos sous, on boit des verres, on déblatère sur les courses. Ce vieux, il est de bons conseils. Il dit tout le temps que les gagnants connaissaient tous bien les chevaux pour gagner le chèque à 5-0.
Hey, on raconte qu'un jour tout le monde gagne, qu'avec un peu de chance et de hargne, à la télé, sous l'hippodrome,
je serai gagnant, j'ai les symptômes.
L'après-midi, quand je suis parti, je vais au bar chez Françoise.
Salut Françoise, ça va?
On sort nos plaques et le Ricard pour jouer à tous les lotos.
Ah ouais, le 5, ah le 5, gagne le jambon.
La fille du bar, c'est la plus belle, elle raconte tout le temps qu'un galant jouait toujours les mêmes numéros et gagne un chèque à 6-0.
On raconte qu'un jour tout le monde gagne, qu'avec un peu de chance et de hargne, à la télé, pendant le tirage,
je vois la vie comme un mirage.
Ça va bientôt faire 40 ans que je suis mordu par ce serpent. Sur des millions qu'on est à jouer, y en a très peu qu'on eut la bouée.
Mais quand je pense à la Françoise et à sa fille aux yeux turquoises,
et au Baptiste, au vieux William et aux anciens pêcheurs sur le rame,
à nos amis les Vanverdeurs, ça me remet du baume au cœur.
Alors j'attends le jour suivant et je le crie à tous les vents. Alors j'attends le jour suivant et je le crie à tous les vents.
Mince et dimanche,
mince et dimanche,
c'est mon jour de chance.
Mince et dimanche,
mince et dimanche,
demain, c'est
c'est l'histoire d'une petite, toute petite goutte de lait, bien installée, dorlotée dans le pizza vache qui broutait, 4 cm carrés dans une mamelle gauche rembourrée.
C'est réalisé. Merci à François aussi, notre complice de l'association du parc, de tous ces projets que nous réalisons tout au long de l'année. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Il est midi, ici à Paris, 13h30, à Téhéran. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, l'armée américaine va désormais viser les ponts et les centrales électriques de l'Iran. Mais les bombardements aériens vont-ils suffire ? À Washington, des opérations terrestres sont envisagées alors que les buts de guerre sont toujours aussi flous. La crise énergétique touche particulièrement les pays asiatiques très dépendants du pétrole qui transite par Hormuz. Reportage aux Philippines où beaucoup de pêcheurs restent à quai. Les sorties en mer ne sont plus rentables. Et puis un peu de musique à la fin de ce journal et le virage électro de la Britannique Arlo Parks. Les prochaines cibles iraniennes ont donc été désignées par Donald Trump. L'armée américaine va se concentrer sur les ponts et les centrales électriques du pays, alors que le président américain a assuré que les bombardements vont encore se poursuivre. Plusieurs semaines, le président américain se vante des succès sans précédent remportés après un mois de campagne aérienne, mais la stratégie militaire américaine rencontre ses limites. Franck Alexandre.
Selon le commandement central américain, 12 300 cibles ont été visées en Iran. Nous y sommes presque, a indiqué mercredi soir Donald Trump, mais pour autant, l'Iran ne s'est pas effondré. Dans la dernière phase de cette guerre menée à tâtons, les États-Unis envisagent des opérations terrestres. 50 000 soldats sont présents dans le Golfe, mais cette option est très aléatoire, pointe Eli Tenenbaum, directeur de recherche à l'IFRI.
Les effectifs déployés pourraient permettre éventuellement une prise d'assaut d'une petite île. On pense évidemment à l'île de Kharg ou à celle de Keshm. On pourrait imaginer une tête de pont qui serait de toute façon extrêmement dure à tenir avec une situation tactique précaire qui en résulterait. L'idée de s'engager dans une guerre terrestre avec forcément des pertes est peu attractive. L'opération n'a jamais été pensée comme une invasion terrestre et transformer une campagne pensée comme exclusivement aérienne en une campagne aéroterrestre, en général, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas.
La question des stocks de munitions se pose également. Plus de 800 missiles Tomahawk ont déjà été tirés et il faudra des années pour reconstituer les stocks de ces armes de précision.
Franck Alexandre, et c'est ce moment que Donald Trump choisit pour limoger un nouveau très haut gradé. Il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George. La raison de ce départ soudain n'a pas été communiquée, mais Randy George avait été nommé sous le mandat de son prédécesseur, Joe Biden. Les limogeages s'enchaînent. Les chefs de la marine, des gardes-côtes et de l'agence d'espionnage NSA ont déjà été poussés vers la sortie. De l'autre côté, la riposte iranienne se poursuit. Nouvelle frappe de missiles et de drones au Koweït. Une usine électrique et de dessalement a été touchée. Israël a aussi été de nouveau ciblé à Tel Aviv et à Eilat dans le sud par des missiles iraniens et aussi ceux des outils du Yémen. La crise énergétique continue également avec la paralysie quasi totale du détroit d'Ormuz. Les cours mondiaux du pétrole flambent toujours. Une quarantaine de pays appelle à la réouverture immédiate et inconditionnelle de ce passage stratégique entre le Golfe Persique et celui d'Oman et évoque de possibles nouvelles sanctions contre l'Iran. Mais un vote prévu aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU est reporté. La résolution prévoit d'user de la force pour libérer le détroit d'Ormuz. L'Asie est particulièrement touchée par cette paralysie. Aux Philippines, dans un pays très dépendant du pétrole, le président Marcos Junior a déclaré l'état d'urgence énergétique la semaine dernière. À Manille, le litre de carburant dépasse les 2 euros, alors que beaucoup de Philippins gagnent moins de 10 euros par jour. La crise touche particulièrement les pêcheurs. Ils sont plus de 2 millions, avec en première ligne les pêcheurs artisanaux à l'économie déjà fragile. Reportage à Manille, Juliette Chénion.
Sur une large barque verte, 12 pêcheurs patientent. Aujourd'hui encore, ils resteront à quai. Partir en mer coûte trop cher. Le prix du diesel a doublé, comme l'explique Darmo et son collègue.
D'habitude, on gagne 700 pesos par jour, 10 euros. En ce moment, c'est 150 pesos, 2 euros. Et le poisson se vend mal en cette saison, car il y a une surproduction. On est en train de faire sécher du poisson au cas où la crise dure. On aura au moins ça à manger. On fait à peine 2 repas par jour. Pas de goûter, pas de rien. On survit, c'est tout.
Les autorités ont annoncé des versements ponctuels de quelques dizaines d'euros, mais Norman et Ding Dong, pêcheurs de moules, ignorent comment les percevoir.
Je me demande bien ce que fabrique notre président.
Personne ne s'intéresse à nous et les agences du gouvernement sont inutiles. Je crois qu'il faut s'inscrire sur une liste quelque part, je ne sais pas.
D'après Pamela Kaya, la Fédération nationale des pêcheurs artisanaux, ces aides sont trop faibles, trop lentes et bénéficient à une minorité de pêcheurs. Le syndicat appelle le gouvernement philippin à contrôler les prix du carburant. Juliette Chénion, Manille, RFI.
Au Pakistan, un kamikaze au volant d'un véhicule rempli d'explosifs a tué au moins 3 femmes et 2 enfants dans le nord-ouest du pays. L'attaque n'a pas été revendiquée. Kiev est massivement frappé par la Russie, habituée aux attaques nocturnes. Fait nouveau, les bombardements se poursuivent en journée pour la 2e fois cette semaine. L'espace aérien est saturé par près de 500 drones et missiles, obligeant les services administratifs et les transports publics à interrompre leurs activités. Nous retrouverons Emmanuel Chasse à Kiev dans 1 heure. En Suède, la droite ouvre pour la première fois les portes du pouvoir à l'extrême droite. Le Premier ministre s'est dit prêt à nommer des ministres du Parti démocrate de Suède, fondé par des néo-nazis, si sa coalition l'emporte aux élections législatives de septembre. Un tournant inédit en Suède, Ottilia Ferret.
Il y a encore quelques semaines, un ministre d'extrême droite, c'était hors de question en Suède, pays jadis bercé par la social-démocratie. Mais le Premier ministre l'a dit lui-même en conférence de presse ce jeudi, ils ont surmonté leurs divergences et les lignes rouges ont été supprimées.
Nous convenons qu'après les élections, nous formerons un gouvernement majoritaire quadripartite qui poursuivra la même politique qu'en cours de mandat. Je formerai ce gouvernement et le dirigerai en tant que Premier ministre. Et au sein de ce gouvernement, les démocrates de Suède exerceront une influence politique considérable et occuperont des postes ministériels importants. Il est donc naturel que les questions de migration et d'intégration figurent parmi les sujets abordés.
Un accord de principe scellé dans la foulée par une poignée de main et qui semble ravir Jimmie Åkesson, le leader de l'extrême droite suédoise.
Ce que je peux constater, c'est que les choses se sont déroulées à peu près comme je l'avais prévu. Nous suivons le plan.
Fondé en 1988 par des néo-nazis, le parti influence et oriente depuis 2022 la justice et la politique migratoire suédoise, devenue une des plus strictes d'Europe. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
De la culture pour finir ce journal et de la musique. À 25 ans, la Britannique Arlo Parks dévoile aujourd'hui un disque nerveux, 12 titres en une quarantaine de minutes. La chanteuse s'éloigne du style néo-soul et indie-pop qu'il avait fait connaître pour explorer des horizons plus électro. Léa Boutin-Rivière.
Ces derniers temps, les musiciens font la fête et ils le font savoir. Après Harry Styles début mars, c'est au tour d'Arlo Parks de prendre un virage résolument électro où les boucles minimales, au synthétiseur et à la boîte à rythme, retracent les 3 dernières années que la chanteuse a passées dans les clubs de Londres, New York et Los Angeles.
C'est la première fois que j'ai vraiment pu découvrir le monde de la nuit. Et j'y ai trouvé une forme de sentiment d'appartenance, de communauté. Je me suis vraiment sentie pleinement moi-même dans ces endroits.
Une liberté qui se ressent sur les titres de l'album, véritables invitations à danser.
Je me suis jamais autant amusée en studio. D'habitude, je n'ai que quelques jours pour enregistrer avant de repartir sur la route. C'est un processus qui m'a laissé de l'espace.
L'écran change, le processus aussi, mais pas le fond. Sur Ambiguous Desire, celle qui est aussi poétesse ressort sa plume affûtée pour raconter ses joies teintées de mélancolie et ses peines emplies d'espoir. Une écriture toujours nuancée et juste, et ça, c'est sans ambiguïté.
Ce journal est tout de suite 8 milliards de voisins.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile.
so alive.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif. 102.4 FM.
Of time, we're now here for phase 2.
Phase 2.